radio. Je m'appelle Lucie et ce soir nous allons parler musique, actu, horoscope et beaucoup d'autres choses. Et nous accueillons nos invités, les clowns de la chiffonnière. Donc bonsoir à vous. Ce soir j'accueille Laurent Campagne et Michel Brocard. Donc bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes les clowns de la chiffonne et donc vous êtes une association. J'aimerais en savoir plus. Alors comment est née cette association ?
Créée en 1983, c'est pas tout jeune, et ça vient des quartiers de la chiffonne sur Montbéliard. Puis on a décidé un jour de faire un petit spectacle pour les enfants, des tartes à la crème, machin. On connaissait rien du tout aux clowns. Et puis, on avait une animatrice qui était là à ce moment-là, qui a dit, mais c'est pas mal ce que vous faites. Et c'est parti.
Alors ça s'est fait dans la rue, comme ça ?
C'était pas dans la rue, là, c'était en salle.
D'accord.
Bon, on a fait de la rue aussi après, mais bon. Et c'est parti de là. Tous les ans, il y a un professionnel qui vient, ou nous, on y va, pour donner notre art à tout le monde.
D'accord, c'est du partage, c'est sympa. Et donc, cette association pratique plusieurs activités. Quelles sont-elles ?
L'association, on travaille essentiellement le lundi soir.
D'accord.
Jeudi.
Donc là,
c'est le jeudi maintenant.
C'est le jeudi soir, pardon. Et on se retrouve tous à l'atelier. On a une petite salle qui ressemblait à un petit théâtre où on travaille l'art clownesque, quoi. Et parallèlement à ça, on fait aussi des formations d'adolescents. Puisque en fait, on avait des enfants, mais ces enfants ont grandi.
Eh oui.
Et donc maintenant, ils sont devenus ados. Donc les portes sont ouvertes aussi aux enfants à partir de 8 ans. Quoi.
Et vous prenez aussi des adultes ?
Les adultes aussi. Le jeudi soir, c'est que des adultes.
D'accord.
Et une fois par mois, les adolescents, on se retrouve un samedi par mois pour pouvoir travailler.
Voilà.
D'accord.
Ensuite, on intervient en maison de retraite, dans les hôpitaux, animation de rue. On crée nos spectacles et on fait des formations dans les écoles.
Et vous faites participer aussi les enfants qui n'en ont jamais fait ?
Oui, oui.
Ah oui, bien sûr.
En formation école, oui.
D'accord, très bien. Et j'ai entendu parler que vous organisiez un festival, le festival du Nez Rouge. Donc c'est un rendez-vous très important ?
Très, très, très important. Donc c'est tous les deux ans. Les clous d'envahissement Béliard, surtout cette année, c'est au Pré-la-Rose. Je pense que tout le monde connaît Pré-la-Rose.
Évidemment.
Donc on a tout regroupé là-bas, parce qu'on avait des problèmes de sécurité. Vous comprenez, on ne pouvait pas faire ça dans la rue, on avait un gendarme par clown. Donc, n'est-ce pas, monsieur Campagne ?
Oui, tout à fait.
Voilà.
D'accord. Et donc, précisez-nous les dates de votre festival.
Alors, le festival, c'est la 11e édition cette année, puisque c'est tous les deux ans. Et c'est le 12, 13, 14 mai de cette année. Donc le 12, pour le petit programme rapidement, ça commencera le vendredi soir avec un spectacle au théâtre de Montbéliard, qui est fait par les clowns de la chiffonne, puisqu'on a créé notre propre spectacle. On le jouera au théâtre de Montbéliard. Ensuite, on a le samedi après-midi au Pré-la-Rose, il y a plusieurs spectacles dans tout le parc. Et le samedi soir, il y a ce qu'on appelle la nuit des clowns, où là, c'est 10 artistes, 10 compagnies de clowns qui se présentent sur un concours.
Et ils viennent de toute la France, eux ?
Ils viennent de toute la France.
Ouais. Même de l'étranger.
Même de l'étranger.
Ah,
on a des Espagnols
qui viennent
aussi. Ouais.
D'accord, très bien. Génial. Bah, c'est un très beau programme. Et il paraît que vous produisiez aussi hors festival, dans des théâtres ?
Oui, alors le spectacle qu'on a créé, on l'a joué au Bardouche à Montbéliard en mars, je crois.
Mars,
je sais
plus. Ouais.
Et oui, on est sollicité. On va sur à Chenille, par exemple. C'est un festival des arts de la rue où on va jouer, où on fait surtout de l'animation, quoi.
D'accord.
Donc on fait aussi de l'animation au marché de Noël, sur Besançon. Voilà. On a une carte de visite Clown de la chiffonne, surtout sur les animations. Et on nous appelle souvent pour pouvoir animer différentes manifestations.
D'accord, donc vous produisez partout, ouais.
Oui.
Oui.
Très bien. Et est-ce que ça fait... comment est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que vous allez faire ça longtemps, selon vous, d'être clown ? Est-ce que c'est une passion, c'est un métier ?
Bah Michel, ça fait déjà longtemps qu'on fait.
C'est une vocation ?
Ça soit d'ailleurs, de toute façon, ça soit.
Ça use.
Donc ça dure ce que ça dure. C'est le clown, c'est soi-même, alors... Tant que je porte mes jambes, tant que la tête... Puis, hein, monsieur Campagne, c'est pareil. Donc, on continue. Il n'y a pas de limite d'âge.
Non, très bien. Ça va durer longtemps. Tant qu'on peut faire rire les gens, de toute façon,
c'est l'état d'esprit, en fait.
C'est ce qui nous porte.
Oui,
et c'est, on peut pas lâcher ça, quoi.
D'accord.
C'est tellement agréable et donc on a toujours envie. C'est comme un virus, quoi. Comme voilà. Dès qu'on y goûte, après, on peut plus s'en passer.
C'est une jolie passion.
On donne pas la grippe. On donne pas.
Et selon vous, quelles sont les qualités d'un très bon clown?
Waouh, wow.
C'est compliqué.
Bon, alors là, je te laisse la parole.
C'est déjà beaucoup pour devenir clown. C'est énormément de travail parce qu'en fait, c'est pas inné, quoi. On a tous quelque chose en nous de clown. Maintenant, après, il faut être en mesure de le sortir. Et pour ça, il y a du travail à faire. Et il faut oser du ridicule. Il faut aimer l'autodérision, quoi. Il faut pouvoir
s'ouvrir aux autres, en fait.
Voilà, être capable de se moquer de soi-même, quoi.
D'accord.
Et ça, c'est très compliqué, quoi. Donc, on n'appelle pas ça de la thérapie, mais c'est pas facile, quoi. Mais tout le monde est capable de le faire, quoi. Dans son propre clown, parce qu'en fait, le clown devient soi-même, quoi.
Oui.
Et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est joli à voir, quoi.
Et dans donc, la chaque clown a sa personnalité, finalement.
Voilà, exactement, oui.
Tout à fait.
D'accord.
C'est très beau.
Eh bien, je vous remercie.
Ben, merci à vous.
Et je souhaite aux gens d'aller voir le festival du Nez Rouge le 12, 13 et 14 mai, au Pré La Rose.
Et tout ce qui est dans la rue, c'est gratuit.
Très bien, c'est parfait. Merci.
Elle s'emmerde les places Saint-Michel avec des cons. Elle descend les places de l'horloge en Avignon. S'emmerdera avec des vieux chlopes de vin de Saint-Berge qui reviennent des Indes du Maroc et qui qu'auberge. Assis sur des sacs de couchage, plutôt crâneur sous leur pavé, c'est peut-être la plage. Mais elle est moche, elle était un petit peu cambreuse, un petit peu autostoppeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. J'ai pris en stop à la porte devant ma soirée de juin. Les montées dans ma Ford Mustang avec son chien. Un Doberman complètement barge qui avait très faim. Camille des poils et puis de la baffe dans mes coussins. Elle a retiré ses charentaises. Bonjour l'odeur, pour roupiller super à l'aise. Pendant trois heures elle était un petit peu grandeuse, un petit peu tostopeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. En se réveillant elle avait la frite, elle m'a parlé d'un pote à elle qui est journaliste à VSD, qui écrit parfois dans Rock'n'Folk sous un faux nom, puis qui serait pédé comme un phoque mais loin d'être con. Je lui dis boucle là tu m'emmerdes avec tes salades, puis tu m'enfumes avec ton herbe. Ça me rend malade, elle était un petit peu cambreuse, un petit peu tostopeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. On s'est arrêté pour bouffer après Moulin, et Jacques Borel nous a chanté son petit refrain. Le plat pourri qui est le sien, j'ai pas touché. Tiens c'est pas dur, même le clébard a tout gerbé. Ma stoppe s'est remplie le tiroir, sans rien moufter, elle était raide comme par hasard. J'ai tout casqué, elle était un petit peu cambreuse, un petit peu tostopeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. Quand je lui ai proposé la botte sans trop y croire, elle m'a dit cause toujours mon pote est un ringard. Alors pour détendre l'atmosphère très glauque, très punk, je mets une cassette de Star Shooter dans mon blowpunk. Je préfère le rock'n'roll, c'est plus l'éclat sur les gerbées de ma bagnole. À grand coup de latte, elle était un petit peu cambreuse, un petit peu tostopeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. Elle s'est retrouvée sur le macadam avec ses gamelles, son sac à dos, son Doberman bien fait pour elle. Terminé pour moi les cambreuses, j'ai eu ma dose. Me parler plus de tostopeuse, ça me rend morose. Je veux plus personne dans ma bagnole, je suis mieux tout seul, je conduis d'une main, l'autre je picole. Je me fends la gueule, elle était un petit peu cambreuse, un petit peu tostopeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. Elle était un petit peu cambreuse, un petit peu tostopeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. Elle était un petit peu cambreuse, un petit peu crâneuse, un petit peu visqueuse, un petit peu pisseuse, un petit peu scabreuse, un petit peu moche. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. Fais gaffe de pas déclencher l'autostoppeur.
Ma radio. Magnifique musique, c'était Renaud, l'autostoppeuse. Et maintenant j'accueille Gaspard pour l'émission ciné. Donc Gaspard, bonsoir.
Bonsoir, alors aujourd'hui... bienvenue à tous et bienvenue dans votre émission Cinécheck, votre émission hebdomadaire des sorties en salle et en DVD de vos films préférés. Alors, la fin de la saison 1 de la série de Mister Robot est en première place de ce classement. Voilà ce qu'on appelle un bon gros spoiler. Et aujourd'hui, je vais me faire le plaisir de ne pas faire de chronique sur les sorties au cinéma, mais de vous pourrir la fin des films que vous vouliez voir dans ce bon top 3 des plus gros spoilers de tous les temps. Ce top 3 peut contenir toutes sortes de contenus audiovisuels, tels qu'ils soient. Et bien évidemment, ce n'est qu'après vous avoir bien spoilé le film en question que j'annoncerai son nom, pour ne pas vous laisser le temps de ne pas m'écouter. En bref, si vous voulez bien finir votre journée, partez maintenant. Donc en numéro 3, on a deux hommes qui se retrouvent dans une salle sans avoir aucune idée de ce qu'ils font là. Ils sont alors soumis à un choix entre la vie et la mort. Pour cela, ils vont devoir effectuer un jeu de piste incroyablement bien ficelé, mis en place par un tueur en série complètement délirant. Ce n'est alors qu'à la fin du film qu'on comprend que celui que l'on croyait être le tueur se révèle être lui aussi prisonnier du jeu, et que le cadavre présent dans la pièce où sont enfermés les deux hommes est en réalité le célèbre Jizo, qui est en fait le vrai tueur. C'est donc, vous l'aviez deviné, le spoiler du célèbre film Saw 1. En numéro 2, dans ce film de 1995 de David Fincher, on suit l'histoire d'un inspecteur de police qui enquête sur une suite de meurtres toutes plus sordides les unes que les autres. Cet inspecteur incarné par Morgan Freeman est accompagné par le jeune Brad Pitt. PS, si vous n'aviez pas reconnu le film, je vous invite à revoir votre culture cinématographique. Durant tout le film, on suit donc ces deux personnages qui, scène après scène, parcourent le chemin tracé par le tueur en série, qui a la particularité de tuer ses victimes en suivant les sept péchés capitaux. J'ai nommé l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la paresse et la gourmandise. C'est alors dans les 20 dernières minutes que les deux policiers retrouvent enfin le tueur en série, qui se rend tout seul. Mais celui-ci fait livrer dans une boîte au jeune Brad Pitt la tête de sa femme en lui expliquant que celle-ci représentait pour lui l'envie. S'ensuit alors une scène finale exceptionnelle durant laquelle Brad Pitt va finir le puzzle mis en place par le psychopathe en le tuant. Vous l'aviez compris, ce film est Seven. En numéro 1, on s'attaque cette fois-ci à une série qui est, à mes yeux, l'une des meilleures. Dans cette première saison, Rami Malek incarne le jeune Elliot, un informaticien talentueux mais un peu dérangé, qui joue un double jeu, informaticien dans une société de défense contre les virus le jour et hacker la nuit. Ce jeune Elliot va alors être contacté par un groupe de hackers nommé F-Society, qui lui propose de les rejoindre. Elliot va alors finir par accepter de rejoindre cet étrange groupe, qui a pour but, qui souhaite hacker les services de protection, comme la société dans laquelle travaille Elliot. Il acceptera finalement de rejoindre ce groupe de hackers, et c'est dans un épisode final palpitant que l'on apprend que le dénommé Mr. Robot, directeur de la F-Society, est en fait son père. Problème, celui-ci est mort il y a déjà plus de 10 ans. Eh oui, la schizophrénie, ça pique. Rassurez-vous, on ne vous spoilera pas la saison 2 de cette super série. Non, je rigole, dans cette saison 2, on apprend qu'Eliot est en prison. C'est tout pour moi, les insultes sont autorisées.
Merci Gaspard, c'était vraiment pas sympa, mais bon, le spoil, des fois, on n'a pas le choix.
Ça me fait plaisir.
Hein. D'accord, et ben merci Gaspard, et ensuite on passe à de la musique. Et c'est College A Real Hero.
Real.
radio. C'est au tour de Guillaume pour la chronique du geek. Alors à toutes celles qui ne sont pas expertes en jeux vidéo, c'est le moment d'écouter. La chronique du geek.
Eh bien, bonjour Lucie, bonjour à tous et bienvenue
Salut.
Dans la chronique du geek. Et nous allons commencer par le coup de com' de la semaine avec l'homme qui arrive à se dédoubler pour faire ses discours. Alors pas question de parler politique dans cette chronique, mais vous avez certainement entendu parler du meeting de Jean-Luc Mélenchon, qui était présent à la fois à Paris et à Lyon. Concrètement, la technologie qu'il a utilisée, donc la technologie holographique, n'est pas révolutionnaire en soi et existe depuis de nombreuses années. Elle consiste à projeter un flux vidéo sur une vitre transparente inclinée à 45 degrés, et cela donne l'illusion que la personne est présente sur la scène. Même si ce n'est pas si impressionnant que ça en termes de technologie, l'effet fonctionne parfaitement bien et a beaucoup plu au public parisien. Cela permet également de remettre sur le devant de la scène cette technologie qui était très à la mode dans vos films science-fiction préférés, tels que Star Wars ou Retour vers le futur. Autre fait d'actualité high-tech avec une très bonne nouvelle pour les skateurs, skieurs et autres sportifs en tout genre, amateurs de super ralentis pour leurs vidéos, puisque Sony vient d'annoncer un tout nouveau capteur CMOS pour smartphone, permettant d'atteindre une fréquence de 1000 images par seconde en Full HD 1080p et ainsi de ralentir 40 fois la vidéo. Je rappelle que beaucoup de smartphones haut de gamme, dont l'iPhone, utilisent des capteurs Sony. Ce ne serait donc pas étonnant que vous puissiez filmer avec une telle cadence d'ici 1 ou 2 ans. Parlons maintenant d'une technologie très tendance en ce moment, la réalité virtuelle, avec deux concepts originaux qui nous viennent tout droit d'Allemagne et du Japon. Commençons par le groupe d'ingénieurs allemands d'XMG qui propose un concept de PC sac à dos, qui est littéralement, comme son nom l'indique, un ordinateur portable de 4 kg qui se porte sur le dos et relié au casque de réalité virtuelle. Donc cette innovation permet de se libérer des câbles en tout genre et peut permettre dans le futur d'utiliser le casque dans des espaces bien plus grands que votre petite chambre. Tout ça pour 3 000 € tout de même. Et on passe par le Japon qui est toujours aussi friand d'innovations technologiques assez farfelues. Et on en a encore la preuve avec la création d'une cabine de réalité virtuelle qui stimule 4 des 5 sens humains, à savoir l'ouïe bien sûr, la vue grâce au casque de réalité virtuelle, le toucher grâce au fauteuil qui vibre et bouge en fonction des mouvements, mais aussi de l'odorat puisque des brumisateurs seront présents dans la cabine. Et on en profite pour jeter un œil sur les séries et notamment une célèbre série de zombies. Alors oui, je sais, c'est la deuxième chronique du geek où on parle zombies, mais on est bien obligé d'en parler cette semaine puisque la deuxième partie de la saison 7 de The Walking Dead va reprendre le 12 février prochain aux États-Unis. La chaîne américaine AMC a dévoilé un petit teaser des prochains épisodes, donc si ce n'est pas déjà fait, allez vite jeter un coup d'œil à ce teaser en espérant que vous arriviez à patienter jusqu'au 12 février prochain. La chronique du geek, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez connectés.
Merci.
Merci à toi.
À tous ceux qui se sont levés du mauvais pied ce matin, c'est le moment de vous réveiller avec l'instant décalé de Romain. L'instant décalé.
Bonjour à tous, bonjour Lucie. Alors,
salut.
Cette semaine, je vous ai concocté une chronique, une anecdote qui va changer votre vie. Vous allez vous rendre compte que, avant cette chronique, rien de ce que vous avez vécu n'a eu de sens. Alors, je l'ai su par un... Alors, c'est un gars qui me l'a dit le week-end... Non, alors... alors non.
C'est attention, c'est un freestyle
dernier. Ouais, non, mais c'est le dernier, c'est le dernier week-end où j'ai été avec ce gars. Attends, parce que c'est une anecdote de fou. Non,
vas-y,
c'était pas un gars, c'était une femme qui m'a dit le week-end dernier qu'aujourd'hui... c'était jeudi. Alors, je reprends. Non, tenez-vous bien parce que c'est vraiment très impressionnant.
Je suis larguée.
Non, on reprend. Donc le week-end dernier, ça portait sur un fruit, je crois. C'est une femme avec des fruits qui m'a dit. Alors elle vendait des fruits. Non, qu'est-ce qu'elle faisait? Alors en tout cas, c'était sur un jeudi. Mais c'est vous-même qui m'avez dit. Vous m'aviez dit la semaine dernière. Oui, c'est ça, je m'en souviens. Vous m'avez dit la semaine dernière que la semaine prochaine dans la chronique, l'instant décalé. Il y aurait l'homme avec la voix la plus suave du monde qui viendrait faire une émission parlant de fruits.
L'homme à la voix sexy.
Exactement.
Qui parle de bananes, c'est
ah
cool.
Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Non, mais ça m'était sorti de la tête. Voilà, c'était la déclaration que j'avais à faire cette semaine.
D'accord, et c'est fantastique. C'était très constructif.
Voilà.
J'adore.
Votre vie est changée à tout jamais. Dites-moi
merci. Petit freestyle comme ça.
Exactement.
On adore. Spontanéité. Merci. Eh ben de rien. C'était très sympa, merci Romain.
Merci.
On passait de la musique. Et maintenant, c'est Noir Désir à l'arrière des taxis.
Vous les avez connus. mesquine, en s'en remettant au hasard, sans plus se soucier de les mines.
De folie, et après ça, j'accueille Zach et Alexis pour une chronique Game Over. Donc je vous laisse écouter parce que j'y connais absolument rien. À vous les garçons.
Bonsoir mesdames, messieurs et gamers, c'est l'heure de Game Over. Alors ce soir, je suis de nouveau avec Zachary. Bonsoir Zachary.
Bonsoir Alexis.
Et de quoi allons-nous parler ce soir ?
Ce soir, on vous parle de Unravel, jeu développé par Coldwood Interactive et Electronic Arts, sorti en février de l'année dernière. C'est un jeu de plateforme et de réflexion, au design 3D mais au gameplay 2D. C'est-à-dire qu'on ne joue que sur un seul plan du jeu. Basiquement, on peut se déplacer à droite ou à gauche.
C'est ce qu'on appelle plus communément un jeu en 2.5D.
C'est ça. Le joueur incarnera un tout petit personnage appelé Yarny. Yarn signifiant fil en anglais, mais alors pourquoi ce nom ?
Eh bien c'est tout simple, parce que Yarny est en fait de la laine, hein, c'est un petit bonhomme de laine. Et en effet, on comprend vite en lançant le jeu qu'il a été tricoté par une vieille dame et qu'il va parcourir les souvenirs de cette dernière dans une dizaine de niveaux, remontant le fil de sa vie, le fil du temps, dans des environnements naturels scandinaves plus magnifiques les uns que les autres.
La particularité de ce personnage réside dans le fait que, telle une pelote de laine, il va se détricoter au fur et à mesure qu'il avance, laissant un fil rouge partout où il passe. Il faudra donc trouver de la laine pour pouvoir avancer plus loin et atteindre la fin des niveaux. Mais cette spécificité ne sera pas qu'un inconvénient.
Exactement, notre petit personnage pourra utiliser son fil à son avantage afin de résoudre des énigmes, grimper ou se balancer de branche en branche, un peu comme Tarzan. Hein. Ne faisant que quelques centimètres, les environnements que vous allez parcourir vous sembleront gigantesques, et chaque être vivant, qui est anodin pour l'être humain, hein, par un panérisson, sera peut-être un terrible danger.
C'est ça, la grande force de ce jeu réside en effet dans son ambiance et ses graphismes. S'approchant parfois du photoréalisme, le point de vue que l'on nous donne sur la nature est assez unique pour un jeu vidéo. Se passant totalement de doublage, il vous laissera apprécier les bruits de la nature et les très belles musiques inspirées du folklore nordique.
Le sentiment qui se dégage quand on joue à Unravel, c'est sans aucun doute la nostalgie. Le rythme lent et calme de l'aventure et l'aspect contemplatif de cette œuvre retranscrit parfaitement ce que peut ressentir cette vieille dame en repensant à son enfance, puis aux différentes étapes qui ont marqué sa vie.
En plus de cet aspect poétique, le jeu se dote d'un message écologique en sous-texte, appréciable de par son honnêteté et sa discrétion. Le joueur fera ce constat par lui-même, sans que le jeu ait à lui expliquer directement la morale de toute cette histoire.
Le seul petit bémol, c'est que l'aventure ne dure qu'une petite dizaine d'heures et on en aimerait plus. Mais bon, selon certaines rumeurs, c'est entre nous, une suite serait d'ores et déjà en préparation. Alors même si cela ne vous gâchera pas le plaisir du jeu, et si vous êtes en quête de poésie et de dépaysement, allez l'essayer tout de suite.
Vous retrouverez Unravel sur PS4, Xbox One et PC. Game Over, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
À la semaine prochaine, Zach.
Merci les garçons. Wake up, sister. Maintenant, les infos. Salut, Com, à toi.
On commence aux États-Unis avec Donald Trump. Celui-ci a signé le 27 janvier un décret interdisant l'entrée au territoire américain aux ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans. Or, 97 entreprises de l'high-tech, dont Facebook et Google, ne semblent pas en accord avec le président américain. En effet, les géantes numériques ont déposé une requête en justice contre le décret pendant la nuit de dimanche à lundi. Les entreprises accusent la mesure anti-immigration d'infliger des dommages importants au commerce américain, à l'innovation et à la croissance du secteur des affaires. Le mémoire des plaignants souligne que le décret ampute la capacité des entreprises à attirer des investissements, car celles-ci emploient des milliers d'immigrants à l'année. Autre affaire polémique avec le président Trump, le milliardaire paraît très attaché au style vestimentaire des gens en général, et ce, surtout lorsqu'il s'agit de femmes. Il aurait affirmé aimer que les femmes s'habillent en femmes, et ainsi, il s'est encore mis à dos une large partie des femmes. En guise de réponse, les féministes, fortement agacées, ont lancé le hashtag « Dress like a woman », comprenez « habillée comme une femme », afin d'éloigner les femmes des clichés sexistes. En France, un journaliste a montré qu'une cinquantaine de chauffeurs munis de faux papiers sont autorisés à rouler sous le pavillon Uber. L'homme a réussi à se faire embaucher en seulement une dizaine de minutes par la firme américaine, et ce, en présentant de faux papiers. Il aurait falsifié une carte professionnelle de VTC, une assurance et un extrait de casier judiciaire, mais ceci n'a pas posé de problème à la firme de transport qui serait peu regardante sur la qualité des documents demandés. Le problème engendré serait maintenant de savoir si la personne derrière le volant de votre VTC est réellement fiable. En Isère, dans la zone commerciale de la Verpillière, deux militaires du 4e régiment de chasseurs de Gap se sont fait voler leurs fusils d'assaut ainsi que des munitions et quelques effets personnels. Les armes avaient été laissées à bord d'une voiture banalisée revenant d'une mission sentinelle. Les soldats s'étaient arrêtés pour déjeuner et ont retrouvé la vitre de leur véhicule cassée avant de constater la disparition des armes. Un important dispositif de gendarmes a été mobilisé, plus de 250 hommes dont des unités spécialisées et des chiens se sont déployés, permettant de retrouver dans la soirée les suspects dans un quartier sensible de Villefontaine. Le parquet de Vienne, qui a ouvert une enquête en flagrance pour vol avec dégradation et détention d'armes de guerre, affirme qu'il n'y a aucun élément qui orienterait vers une thèse terroriste. Aussi, quelques jours plus tard, à une trentaine de kilomètres de cet incident, à Passin, un important vol d'armes et de munitions a eu lieu dans un magasin de chasse et pêche. Et on termine sur la mythique course de ski de fond, la Transjurassienne, qui se retrouve amputée de 15 km de parcours faute de neige. Le dimanche, l'épreuve sera l'unique étape française de la Coupe du Monde de longue distance et il y aura un niveau de compétition très relevé avec notamment des athlètes de l'équipe de France.
Merci beaucoup, Com. Et maintenant, c'est au tour de Romain pour le sport.
Bonsoir à toutes et à tous. On débute ce tour des sports avec une page US et l'événement de l'année que chaque Américain regarde, le 51e Super Bowl qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi. Et dire que pendant longtemps on a pensé le match plié, à la 27e minute Atlanta avait déjà inscrit 3 touchdowns quand les Patriots se cherchaient encore à marquer leur premier point. Mais il ne faut jamais oublier que les Patriots de Bill Belichick sont les maîtres du suspense et du spectacle. À Houston, ils se sont carrément surpassés, offrant au Super Bowl la première prolongation de son histoire. James White a alors marqué le touchdown de la victoire en mort subite sur une course de 2 yards. Un épilogue inimaginable une heure et demie plus tôt. Dans l'histoire du Super Bowl, jamais une équipe championne n'avait remonté plus de 10 points de retard. J'aimerais également souligner qu'à l'occasion de cette victoire contre Atlanta, les Patriots ont battu ou égalé 27 records dans un Super Bowl. Tout simplement historique.
Et toujours dans le sport US, le basket avec la NBA.
Oui, le choc de la nuit en NBA réserve un affrontement entre les Washington Wizards, une des meilleures équipes du moment grâce à une série de 7 victoires consécutives, et les Cleveland Cavaliers, premiers à l'Est. Dans une ambiance digne des playoffs, Cleveland s'est imposé 140-135 chez son adversaire au terme d'une prolongation arrachée par un héroïque LeBron James, une fois de plus, 32 points et 7 rebonds pour lui. King James a trouvé moyen de se retourner et déclencher un tir tout en retombant dans les tribunes à seulement 3 dixièmes de la fin du temps réglementaire. Dans les autres résultats de la soirée, le Miami Heat et les Indiana Pacers affichent de très belles dynamiques du côté de la conférence Est puisque les Floridiens ont emporté une 11e victoire consécutive en saison régulière tandis que Indiana a renversé l'Oklahoma City 93-90 pour un 7e succès de rang.
Passons désormais aux résultats en bref.
Le tournoi Destination qui continue ce week-end avec l'un des chocs de cette édition puisque samedi à 18h le Pays de Galles rencontre l'Angleterre tandis que la France reçoit dimanche les Écossais. Victime d'une luxation des deux genoux le 27 janvier, le skieur français Valentin Giraud-Moine sera encore opéré ce jeudi mais il espère pouvoir revenir au plus haut niveau. La 24e journée de Ligue 1 se poursuit avec notamment à 19h Nice Saint-Etienne et Lyon-Nancy. Hier soir, Monaco s'est imposé à Montpellier tout comme le PSG face à Lille.
Eh ben merci Romain, à tous ceux qui aiment le sport, je pense qu'on a été servis. Et maintenant j'accueille Stéphane pour la revue de presse.
La revue de presse.
Et salut à tous.
Salut Stéphane.
Ça va Lucie?
Et très bien et toi?
Tu passes une bonne soirée?
Absolument.
Et ben ça va continuer avec la revue de presse. La revue de presse, ça parle de quoi?
Je ne sais pas, de la presse bien sûr.
Ah bah, bravo, ça suit l'émission. Alors ce soir, on va parler de jeudi.
Je tiens à préciser, le gars il fait quand même la revue de presse, il s'est acheté un journal. Juste pour dire.
Non, pas du tout, parce que tu vois, je vais te l'offrir tout de suite.
C'est gentil.
Voilà. Depuis jeudi dernier, on ne parle que d'un seul homme. C'est qui? C'est François Fillon.
Absolument.
À la une du journal du dimanche ou encore de Libération, le candidat de droite est, comme se demande la Voix du Nord, sans doute hors course. C'est vrai que ces affaires de Penelope Gate, c'est assez compliqué, c'est pas à nous d'en juger. Cela fait donc les affaires d'Emmanuel Macron qui, en couverture de l'Express, le montre comme celui qui bénéficie peut-être le plus de l'affaire Fillon. Mais l'affaire Fillon. Mais il ne faut pas oublier Marine Le Pen qui se fait discrète ces jours malgré une altercation entre son service de sécurité et les journalistes de Quotidien. Une affaire qui a quand même bien fait parler et qui a été énormément retweetée et likée.
J'aime bien Quotidien.
Sur Facebook. Bah oui, bah, justement, ils se sont fait virer.
Il y a Martin Well.
Eh oui. On la retrouve, Marine Le Pen, on la retrouve en une de l'Obs qui titre sur « Ce qu'elle ne vous dit pas ». Je vous recommande d'ailleurs ce numéro, oh, on y apprend des choses assez croustillantes. Je voudrais parler enfin de Jean-Luc Mélenchon, même si la chronique de notre cher Guillaume nous a un peu déjà volé l'idée. Mais Jean-Luc Mélenchon, il a eu la fameuse idée de justement utiliser cet hologramme qui a énormément fait parler aussi pour son meeting qui s'est déroulé aussi, qui s'est déroulé à Lyon, mais aussi à Paris. Et oui, l'agression des forces sentinelles vendredi au Louvre, donc ça c'est un autre sujet, ça ravive les peurs, comme le titre Le Figaro, et rappelle que la menace est toujours présente après l'attentat de Nice le 14 juillet dernier. Sinon, dans un tout autre registre, et pour vous détendre de l'actualité morose de cette semaine, le Parisien Aujourd'hui en France de samedi vous donne les conseils qui marchent contre le mal de dos. C'est utile quand on travaille en audiovisuel.
Surtout quand on a 18 ans.
Ouais, ça peut arriver très jeune, hein. Faut faire très attention. Cette semaine, je vais vous présenter un titre de la presse qui traite du monde des médias. Il se nomme Le Monde des médias, c'est celui que je vous ai offert, offert.
Il me vous voit.
Oui, non, mais c'est
super
trop professionnel.
J'adore.
Il ne faut voir aucun lien de parenté entre ce bimestriel et le quotidien Le Monde, qui lui traite de l'actualité nationale et internationale. On parle dans ce journal de télévision, mais aussi de journaux, sans oublier Internet.
Pardon.
La fille ne suit pas. Super. Un très bon journal qui en ce moment titre sur Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, Bolloré et Hanouna. Et vous avez même en deuxième page Monsieur Fillon photoshopé avec un corps d'athlète. Lucie, ça c'est spécialement pour toi.
C'est très gentil.
Sinon, quelques audiences télé avec Danse avec les stars sur TF1 samedi soir.
Je suis sûre que t'es un grand fan.
De Danse avec les stars.
Absolument.
Bah en soirée, voilà.
D'accord.
Tout ce voulait essentiellement être du spectacle pour le plus grand plaisir des fans de l'émission. Mais ce numéro a rassemblé seulement 3 millions de téléspectateurs. Un échec pour la une. C'est France 3 qui s'est classé en tête avec Meurtre à Dunkerque, le titre fait rêver. Et avec près de 5 millions de téléspectateurs quand même.
Mais qu'est-ce qu'ils font les gens le soir?
Ah bah 5 fois la population de Dunkerque, quoi.
Attention,
bah,
quoi.
Plus même, parce que je pense pas que ce soit 1 million.
Ça m'étonnerait.
Devant France 2, 3 millions et demi. Nous pouvons aussi souligner les très bonnes audiences du premier match du 15 de France qui a perdu contre l'Angleterre dans le tournoi des 6 nations face à l'Angleterre qui était diffusé sur France 2 samedi après-midi devant 5 millions de fans du ballon ovale. Voilà, merci à tous. J'espère que vous avez passé une bonne revue de presse et on continue tout de suite la radio. Merci Lucie, je te rends l'antenne.
Oh, c'était fantastique, merci Steph. Et fan de ballon ovale apparemment.
Oui.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning at all.
radio. Nous venons d'écouter The Velvet Underground, Sunday Morning, et maintenant j'accueille Marjorie pour l'horoscope. L'horoscope.
Bonjour Lulu.
Salut Marjo.
J'ai cru que t'allais oublier ma chronique là.
J'ai eu un petit bug, c'est vrai.
Ouais. Faut l'avouer. Bon, est-ce qu'on peut y aller ?
Oui, je t'écoute. Alors, commençons par Bélier.
Alors, Bélier, en amour, vous logez à l'hôtel des culs tournés cette semaine, mais rassurez-vous, ça vous fera gagner du temps pour pouvoir atteindre votre objectif professionnel, qui bien sûr est de gagner beaucoup, 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 beaucoup d'argent.
Très constructif. Taureau.
Alors, vos maux de tête, votre fatigue ou votre stress ne seront qu'un mauvais souvenir très bientôt. Et oui, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas aller au bureau.
C'est dommage. Gémeaux.
Mais serait-ce le soleil que je vois ? Mais oui, les Gémeaux, c'est bien votre tour d'accueillir un peu de bonheur dans votre vie. Après les vents glaciales que vous avez encaissés, il est temps de profiter de la brise légère.
Magnifique. Et maintenant, c'est à notre tour. Cancer.
Alors, Sénèque a dit... La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire.
J'aurais préféré autre chose.
Pour la prochaine fois,
merci.
Promis.
Merci, ah, super.
Je choisis pas ce que je vois, tu sais.
C'est les astres.
C'est ça.
Lion.
Alors, un vent de folie soufflera au-dessus de votre tête cette semaine. Vous aurez envie de dépenser sans compter et de vivre comme vous l'entendez. Mais oui, pourquoi pas craquer pour ces sublimes petits louboutins à seulement 399,99 €.
Mais oui, c'est vrai. Pourquoi ? Et maintenant, on passe aux Vierges.
J'ai vu Neptune en grande discussion avec Pluton sur si oui ou non vous allez rencontrer l'amour de votre vie cette semaine. Je dois vous dire, c'est Saturne qui a gagné.
C'est cruel ce monde. Balance.
C'est évident que vous ne voulez pas de cette vie à deux, alors vous attendez quoi pour lui dire ? D'autant plus que, mesdames les balances, vous allez devenir allergique au gel douche masculin cette semaine.
Ah, ça promet, hein. Scorpion.
Oh, Mercure vous promet de rencontres prometteuses. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur monhoroscopehebdomadaire.com. Mais en vérité, ça arrivera surtout grâce à votre 10e margarita de la soirée, que je vous le rappelle en passant, n'est pas remboursée par la Sécu, contrairement aux antidépresseurs.
Les mojitos, c'est meilleur.
On en a déjà parlé.
Ah pardon. Sagittaire ?
C'est une superbe semaine pour les Sagittaires. Les insomniaques dormiront, les illettrés ouvriront du Baudelaire, les obèses boycotteront McDo, Trump s'époutoufera dans sa bêtise, les célibataires découvriront YouPorn et moi je vais tomber malade pour la semaine prochaine pour ne plus devoir vous raconter n'importe quoi sur votre vie.
C'est une révolution. Capricorne.
Plusieurs études ont montré que les devoirs à la maison n'ont presque aucun impact sur la réutilisation. Je recommence.
Je t'écoute.
Plusieurs études ont montré que les devoirs à la maison n'ont presque aucun impact sur la réussite scolaire. Alors c'est bon, vous pouvez lâcher l'affaire. Par contre, le même raisonnement ne tient pas pour le sport. Une heure par mois à la salle, ça ne suffit pas.
J'espère que les profs ont écouté, hein. Arrêtez avec vos devoirs, sérieux. Allez, passons à Verseau.
C'est dangereux pour vous niveau santé cette semaine. Je vois Mars qui dit que vous devez ralentir sur la pizza. Mais il paraît que les gens qui consomment beaucoup de pizza peuvent diminuer leur risque de cancer. Alors on croit les astres ou la science ?
On fait un mélange des deux. Poisson !
C'est une période faste pour les couples. En même temps, c'est la Saint-Valentin et c'est bien le seul jour de l'année où la mondialisation nous sert à quelque chose. J'aimerais vous laisser sur la citation profonde de la semaine. Pour épargner un clou... On perd un cheval. À méditer.
C'était très profond, j'ai rien compris. Merci Marjorie.
Moi non plus.
Ça me rassure, c'est parfait. Alors maintenant, on va passer à une petite musique.
Classe, wow.
C'était Noir Désir, comme elle vient. Ma radio. Et maintenant, j'accueille Raphaël pour la chronique littéraire.
La chronique littéraire.
Salut Raphaël.
Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une trilogie qui est juste excellente. Alors je sais, c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de ce premier tome, puisque j'en suis qu'au chapitre 3, mais je ne peux pas résister plus longtemps. La trilogie des fourmis a été écrite par Bernard Werber et elle est parue en France en 1991 chez Albin Michel. Si en Corée du Sud, son livre est présenté comme un livre de poésie, certains le considèrent comme un livre fantastique. Afin de décrire ces trois romans, Bernard Werber, l'auteur de ce chef-d'œuvre, a créé un néologisme qui lui permet de définir son œuvre telle qu'il la voit. Pour cela, il utilise le terme de philosophie-fiction. En effet, sa trilogie est en réalité une réflexion sur l'humanité. Invité en septembre 2016 au micro d'Europe 1, il se justifiait sur son désir de comprendre. Ce qui m'intéresse c'est la vraie question, c'est qui je suis, qui sont ces intrus qui sont autour de moi. Ce que j'ai trouvé comme principe pour comprendre qui est l'homme, c'est l'utilisation du regard extérieur. Donc à l'image des fables de La Fontaine, il explique son choix de ces insectes si particuliers. La fourmi est un être social, solidaire, qui pense tout le temps à la collectivité. À travers cet homme, on comprend mieux l'organisation de la fourmilière et du rapport hiérarchique établi à l'intérieur de celle-ci. L'histoire commence par un héritage que reçoit Jonathan Wells avec le décès de son oncle, Edmond Wells, qui est biologiste. Il choisit avec sa femme et son fils de récupérer la maison et de s'y installer. Edmond Wells, étant passionné par les fourmis, a décidé de rassembler ses connaissances dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Dans Les fourmis, on retrouve certains de ses extraits qui mettent en exergue la situation des fourmis, qui fait un parallèle plus ou moins direct avec celle de l'homme. L'histoire se divise rapidement en deux. On suit parallèlement ce qui se passe dans la fourmilière de Belokan et ce qui a lieu dans notre monde. Avec cette alternance de milieux, des mystères et des secrets se mettent rapidement en place. Pour tous ceux qui aiment le suspense, cette trilogie sera à la hauteur de vos espérances. Bernard Werber sait faire perdurer le suspense et c'était l'une de ses priorités lorsqu'il a commencé à écrire sa trilogie à l'âge de 16 ans. Au départ, ce livre a suscité des interrogations de la part des éditeurs, mais aussi de la part du public. Il a su rapidement satisfaire les lecteurs au point qu'il sera traduit dans plus de 30 langues et vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Le premier tome a reçu plusieurs prix, celui des lecteurs de Science et Avenir, le prix du livre de l'année du livre Hebdo et le prix Palissy.
Tu as l'air de t'y connaître en Bernard Werber. Alors donc, est-ce qu'il y a des livres qui permettraient à nos auditeurs de retrouver un peu son univers particulier ?
Oui, en effet, on retrouve son univers dans différentes nouvelles qu'il a écrites, puisqu'elles s'entrecroisent. Par exemple, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, écrit donc par le personnage Edmond Wells, est présente dans différents romans, comme dans L'Empire des Anges.
Merci Raphaël.
Merci.
Et maintenant,
l'émission musique.
J'accueille Sam et Paulin pour l'émission musique. Salut les garçons.
Salut, salut, ça va bien
Lucie, mais oui, super, et vous?
Ouais. Eh bah super, parce qu'on a un petit groupe à vous présenter là aujourd'hui.
Parfait.
Pas piquer des hannetons.
Alors, ça comme dirait ma grand-mère.
Exactement, ça s'appelle The Cat Empire. C'est un groupe australien fondé en 1999 par trois musiciens, Félix Ribble aux percussions, Ollie McGill au piano et Ryan Monroe à la basse. Aujourd'hui, le groupe comporte 6 personnes et ne compte pas moins de 10 albums dans leur discographie. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce groupe de particulier? Bah, tout d'abord que leur musique est un curieux mélange d'influences. Il y a du reggae, du rock, il y a du hip-hop aussi, du funk, du latino. Et ils varient sans cesse les styles en fait et les inspirations pour créer un cocktail détonnant. Et il faut bien dire que ce melting pot a de quoi plaire.
Leur premier album sort en 2003 et s'intitule, je te laisse deviner, Cat Empire, comme le groupe. Pour cet album, ils ont voulu retransmettre toute leur énergie live en apportant en plus une finesse dans les arrangements. Ils ont donc opté pour quelque chose de dansant qui s'enrichit au fur et à mesure des mesures. On s'écoute un petit extrait, le morceau s'intitule The Wine Song.
Songs and melodies change and sway, but they still stay the same. The songs that we sang when the dark days come, I
are the songs that we sang when we chased them away. If I ever found a pot of gold, I'd buy bottles untold of the nectar of the vines. Cause I'm gonna die with a twinkle in my eye, cause I sang songs, spun stories, love, laughed and drank.
Alors après cet album, les tournées vont s'enchaîner rapidement, notamment en Europe, où ils passent aux Eurocaennes de Belfort, à côté de chez nous. Et ils sont projetés sous les feux de la rampe, en fait, grâce à leur troisième album, Two Shoes, sorti en 2005. Ils restent dans les règles Cat Empire, c'est-à-dire un groove qui donne bien envie de bouger la tête, des airs qui nous donnent envie de les chanter encore et encore, mais ça reste cool. Il a été enregistré dans le studio Egrem, à Cuba. Et oui, c'est dans le même studio qu'ont été enregistrés trois albums du légendaire groupe The Buena Vista Social Club. Alors on va s'écouter le morceau Two Shoes de l'album Two Shoes. On écoute ça.
Leur dernier album est sorti en 2016 et s'appelle Rising with the Sun. Cet album comporte un morceau en hommage aux victimes de l'attentat en 2015 au Bataclan. Et oui, même s'ils sont de l'autre côté du monde en Australie, cela ne les empêche pas de savoir ce qui se passe chez nous. On s'écoute un extrait du morceau Bataclan du dernier album.
Of sorrow, don't talk to me of shame. I'll call it by another name. Nothing but the sun can black out what's been done.
Voilà, on a fini de vous harceler avec ce groupe, mais croyez-nous, ça vaut le détour.
Carrément.
Moi, je vais courir acheter le CD.
Ah ouais, c'est super. C'est tout bon. Je te promets, c'est super.
Ok, super. Arsam et Paulin, il me semble que un petit live ce soir, non ?
Bah ouais, on a une petite surprise. Un petit groupe bien sympathique qui s'appelle Les Soins un peu. Alors, ils font un peu de la musique avec des instruments de percussion un peu étranges, des washboards, une guitare, des voix, et tout ça pour revenir sur quelques standards du blues, etc. Donc, on va s'écouter ça avec grand plaisir. Faites place aux Soins un peu.
C'est parti.
Allez. Alors, c'était le morceau Rolling and Tumbling, et là, on va s'en écouter un autre.
C'est parti.
Allez, on s'écoute ça, ça va faire que du bien.
Fantastique. Et maintenant, on va accueillir le groupe de Swampe directement dans le studio. Excusez-moi.
Un peu de mal, hein.
Excusez-moi, oui.
Ouais, bah comme tu dis, là, les Swampe vont venir nous rejoindre. On va leur poser quelques questions, savoir un peu d'où ils viennent.
Original. J'aimerais bien leur poser une question sur leur instrument là. Il me semblait que c'était une planche pour faire le.
La washboard là.
Ouais.
Ah bah carrément. Hein.
Ça c'est fantastique.
Ouais,
j'adore.
C'est assez hallucinant. Ils utilisent des instruments vraiment particuliers. Ils ont décalé des petits trucs là pour la grosse caisse, une espèce de valise.
Grande fan.
Il y a vraiment beaucoup de choses à...
Allez-y, installez-vous.
Beaucoup de choses à dire, bienvenue. Donc voilà, les soins un peu sont avec nous à l'antenne.
Ils sont arrivés.
Enfin. Alors, tout d'abord, bah, comment allez-vous hein si,
Ça va. Ouais, très bien, merci.
Super. Alors, bah, on a quelques petites questions à vous poser, parce que mine de rien, c'est une musique quand même assez intéressante, originale, avec des influences qui, sont... qui à mon avis, vont chercher un peu loin dans le blues, etc. C'est quoi, vous, vos premières influences? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette musique, en fait?
Eh bien, moi, c'est Sonny Terry, personnellement.
D'accord.
Voilà, un grand joueur d'harmonica après-guerre, qui me berce depuis bientôt 25 ans.
En fait, notre musique, elle est issue des chants de travail. Mmh. En premier, les chants de travail, le blues, et puis tout ce qui tourne après autour. La musique swing, mais on va aussi dans le Cajun de la Louisiane, ouais. On va, enfin voilà quoi. Donc cette musique un peu de tradition populaire,
d'accord.
Mais qui a fait en fait toute l'histoire de la musique américaine quoi.
Ok, d'où le nom les swamp pour le swamp blues, c'est ça?
Exactement, le bayou quoi.
C'est voilà, ça.
Quoi. Ouais, c'est ça,
super,
exact.
Super, super.
Et bon. Le EUX pour le côté franchouillard.
Évidemment.
Faut bien.
C'est bien trouvé.
Sam.
Et du coup, ouais, je voulais vous demander, ça fait combien de temps du coup que vous êtes formé, que comment ça s'est passé
En fait, on se connaît depuis quelque temps maintenant. On s'est retrouvé ensemble dans une formation de blues. Et puis la formation s'est arrêtée. Puis nous, on a continué de se voir parce qu'on est aussi potes, quoi. Puis quand on se voyait, on sortait l'armoire, la planche à laver, pour s'amuser comme ça, quoi. Et puis l'idée est venue de se dire, bah tiens, si on montait pas un spectacle, l'idée c'est de monter un spectacle de rue, quoi. Voilà, quoi. Ouais, donc, ça fait 2 ans qu'on bosse sur un vrai spectacle de rue. On joue beaucoup dans la rue, en fait. Ouais.
Ok, alors bah, tu nous parlais de planche à laver justement, alors ouais. Vous jouez un peu avec des instruments particuliers, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet, comment l'idée vous est venue, comment vous avez bricolé ça, est-ce qu'il y a des contraintes, qu'est-ce qui vous a plu dans ces instruments?
Alors la planche à laver, ouais, c'est un peu, on appelle ça la batterie du pauvre en fait. Et justement, à cette époque-là, dans l'époque des champs de coton, tout ça, ils n'avaient pas d'instruments et ils prenaient en fait les objets du quotidien qui détournaient pour pouvoir faire de la musique, quoi. Comme ça qu'ils ont commencé avec la planche à laver, mais aussi à passer des bouteilles sur des cordes.
Le fameux bottleneck.
Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Okay. Voilà, puis pour l'harmonica, je te laisse.
Pour l'harmonica, il n'y a rien à dire, c'est l'harmonica. C'est comme ça, c'est une passion.
Bah, c'est quand même un instrument très riche. Hein,
ouais, c'est un instrument très riche, ouais.
Ouais. On comprend mieux la valise en guise de grosse caisse aussi, qui était très original, j'ai trouvé, puis assez cool.
Oui, assez en fait, sympa. Le truc, c'est d'arriver à être dans la rue, et puis de pouvoir avoir de la percu qui sonne, quoi. Mm. Et donc voilà, c'est une valise au pied, parce qu'une grosse caisse, c'est trop lourd à transporter.
Ouais.
Voilà, il faut que ça soit très léger, et puis que ça le fasse n'importe où on se pose, quoi. Voilà.
Ouais, mais c'est ça. Puis ça le fait en plus.
Ouais, ouais,
bon, merci.
Et du coup, musicalement, vous avez des envies d'évolution, vous jouez dans la rue, à ce qu'on m'a dit. Donc, vous aimeriez bien arriver vers quoi? Ça serait quoi votre idéal?
C'est d'avoir une formation un peu plus étendue,
ouais.
Avec d'autres musiciens qu'on n'a pas encore rencontrés, d'ailleurs, qu'on cherche à rencontrer.
Quoi, comme par exemple?
Des contrebassinistes, des joueurs de peigne, un peu tous les fradés qui s'ennuient dans leur coin.
En fait, les premiers orchestres de l'époque, on appelait ça des jugbands.
D'accord.
Et un jugband, c'était le jug, c'est un pot de terre comme ça, on souffle dedans pour faire des basses. Donc il y avait du jug, il y avait la contrebassine, donc c'est une bassine avec un manche à balai, une corde et on fait les basses comme ça. Donc voilà, on recherche des musiciens qui sont intéressés pour faire ça. Ça court pas les rues, c'est clair.
Ouais, ouais.
Donc pour le moment, on est toujours deux, quoi. Mais voilà, c'est ouvert. C'est ouvert à du banjo, à du violon, à plein de choses, en fait. Ouais.
Mais du coup,
à des voix aussi. Ouais.
J'ai l'impression qu'il faut beaucoup d'ingéniosité, en fait, pour arriver à ce que vous faites. Parce que c'est quand même pas mal de réflexion et de trouver comment détourner des objets du quotidien pour en faire un instrument de musique. Ça vient naturellement, ça? Ou alors c'est une recherche derrière?
C'est un peu les deux, en fait. Voilà. On sait un peu ce qu'on veut et après, on cherche le truc qui peut sonner comme on l'entend.
D'accord.
Ouais.
À nous, ça nous paraît pas si original que ça.
Ah bah quand même.
Vu qu'on n'écoute que ça en fait. Hein.
Bah c'est vrai que c'est des trucs après, des générations comme les nôtres, comme ça, on est plus éloigné de ce genre de réalité, de comment, bah en tout cas par où a dû passer la musique pour en arriver là où elle en est. Ouais, c'est... Et du coup c'est quand même intéressant de voir ça maintenant, de nos jours encore, la tradition se perpétrer.
Ouais, on fait le chemin inverse, nous on repart.
C'est plutôt sympa je trouve.
Mais est-ce que vous vous produisez ailleurs que dans la rue ?
Oui, alors bientôt, on peut faire un peu de pub.
Absolument, c'est
alors,
fait,
donc on sera au Pinky à Nomé, qui est un petit café-concert, voilà, très sympa. Donc ça, ça sera le 25 de ce mois.
D'accord. Okay.
Voilà. On salue la Gigi et tous les habitués du Pinky, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Qui est presque un dernier lieu dans le coin où les musiciens peuvent encore aller jouer comme ça. Parce que malheureusement, ils ferment les uns après les autres, tous ces bars où les musiciens pouvaient aller. Quoi. Ouais.
D'accord. Très bien, bah merci.
Merci à vous.
Merci d'être venu.
Merci.
Bah ouais, merci encore, hein, c'était merci. Super chouette.
Merci les garçons pour
plaisir.
Votre chronique.
Bah, de rien, Lucie. Hein.
Ma radio.
Donc je vous remercie à tous et à toutes, les techniciens, les musiciens, les chanteurs, les chroniqueurs. Et j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi. Et j'espère à une prochaine fois. Bonne soirée.
Merci.
Ma radio.